Bien, bien, bien.
Bon, alors, nous commençons notre quatrième séance de ce 35e atelier. Déjà la quatrième séance, ça va vite. Vous savez que cet atelier est consacré à la question de la peinture en France au XVIIIe siècle. On a déjà regardé d'assez près Watteau, Boucher, Chardin, et que cette fois, c'est Frère Léonard, et pour vous, c'est une révision, hein, puisque l'un des tout premiers ateliers, il y a... était consacré à Fradonna. Donc là, pour vous, c'est vraiment Finger in the nose, n'est-ce pas?
Mathieu, il y a 12 ans alors.
Il y a 12 ans. Vous avez tous ça parfaitement en tête. Donc aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une petite révisionnette, parce que vous êtes tous allés sur le site de l'UTB voir la. Bref. Alors, comme d'habitude, je vous montre un peu la frimousse de notre héros du jour. Voilà un portrait qui pourrait être celui de Fragonard. Ce n'est pas tout à fait certain. Bizarrement, de Fragonard, on a assez peu d'éléments iconographiques qui nous permettent de voir à quoi il ressemblait. Pourtant, ce personnage assez fulgurant, si j'ose dire, aurait pu laisser derrière lui, ou d'autres que lui, hein, d'assez nombreux portraits ou autoportraits, ce n'est pas le cas. Et à vrai dire, un des rares autoportraits possibles de Fragonard, c'est le tableau que vous voyez là. C'est pas certain. J'ai pas regardé d'ailleurs la littérature récente concernant ce portrait pour savoir ce qu'il en était, mais il y a quelques années, on le considérait comme étant un portrait éventuel de Fragonard par lui-même. Donc c'est pas sûr, mais c'est possible. Alors que, en tout cas, qu'il nous incarne un peu le personnage auquel nous allons nous intéresser ce soir. Alors on va commencer comme d'habitude par la première partie. Que j'ai appelé un œuvre et qui a pour but de considérer à partir, je crois, d'une douzaine de photographies que j'ai sélectionnées, de les remettre dans l'ordre, ce qui va nous permettre rapidement, dans un premier temps en tout cas, d'essayer de voir quelle a été la carrière de Fragonard, comment est-ce qu'on peut résumer la totalité de sa carrière à partir d'un choix de quelques œuvres. C'est le premier travail que nous allons faire. Vous savez comment ça se passe, je vais vous passer les 10-12 diapositives d'un coup, on va aller les voir une fois, deux fois, trois fois, et après, puisque vous aurez tout mémorisé, vous allez nous remettre tout ça dans l'ordre, on va voir, n'est-ce pas, ainsi, comment s'est organisée la carrière de notre personnage. Ok ? Alors, nous regardons les œuvres une première fois, comme ça vous les découvrez, et on commence à les mémoriser. Voilà. Première fois, deuxième passage en sens inverse, hein. L'idée est encore une fois, dans un deuxième temps, de remettre tout ça dans l'ordre pour avoir la silhouette de la carrière de l'artiste à partir de ces, je crois qu'il y a 12 œuvres. Alors on recommence en sens inverse. Okay. Alors, une troisième fois, et encore une fois, je vous le redis, l'idée va être de remettre ces diapositives qui sont en désordre, dans l'ordre, pour reconstruire la carrière de l'artiste. L'idée, c'est d'essayer de voir quelles sont les œuvres les plus anciennes, les œuvres les plus récentes, celles qu'on peut mettre au milieu. Bref, on les revoit. Et voilà, il y en a 14 en fait. Bien. Alors, c'est simple. Alors, comment est-ce que vous mettriez dans l'ordre chronologique ces œuvres, une chronologie qui correspondrait évidemment à une évolution de la carrière de l'artiste? Qu'est-ce que vous en pensez?
Les tableaux bibliques, et les paysages qui fait un peu flamand, peut-être au début.
Donc au début, les tableaux bibliques et les paysages nordisans, plus ou moins flamands.
Oui, okay. Les teintes sont plutôt du genre atténué et tout ça. Je trouve que c'est. Contrairement à d'autres, après, où c'est devient la rouge, jaune, rose et tout, je mettrais plus au milieu. Là.
Donc vous mettriez les tableaux, quand vous dites les teintes atténuées, c'est les tableaux un peu sombres
Pas forcément sombres, mais c'est les teintes aussi sont effectivement pas des teintes très vives, très saturées, c'est des teintes un peu.
Vous mettriez ça au départ.
Oui. Après les rondeurs.
Les rondeurs après.
Les rondeurs après.
Hein. Ça, oui, pardon.
À la fin de tous les jeux, là, on voit les
d'accord. Donc ça plutôt vers la fin. Hein, le Konamaya, on voit un berger en train de jouer avec Konamaya, évidemment. Ça plutôt vers la fin.
La dernière photo, ça s'est apprécié en début.
La dernière, oui, donc tout à fait au début. Donc ça reviendra un peu à ce que vous dites, oui, vous, c'est-à-dire que les scènes bibliques, etc.
Pas toutes.
Mais celle-là.
Oui.
Donc, si je résume un peu, on aurait plutôt un certain nombre de scènes bibliques vers le départ, mais peut-être pas toutes. Okay. Les paysages, on va dire, de tradition nordique aussi, c'est ça? Vous, un peu après. Déjà, certaines scènes bibliques, puis les paysages, en tout cas plutôt vers le départ.
Le portrait du vieillard.
Début, fin.
Non, milieu.
Milieu.
Ah,
vous le mettriez à la fin. Oula.
Comment ça
vient? Pardon?
À la fin aussi.
À la fin aussi, le vieillard.
Oui, le premier.
Ok, le premier, plutôt vers la fin. Ok. Ah, vous l'auriez mis au début. Bon.
Comme les paysages.
Et les paysages, vous aussi, au début?
Plutôt.
Non, il a fait.
Et c'est à la fin que vous mettiez, je crois, les scènes plus
légères,
galantes, etc. Dont le Konamaya. Non, vous, plutôt, ce n'est pas la fin. Okay. Bon, et bien écoutez, il y a. Bon, c'est bien, tous les avis s'expriment. Hein. En gros, là, tous les avis sont un peu très différents. Bah, écoutez, c'est bien. Bon, donc là, on va. Voilà, il y a en gros des avis. Parfois un peu semblable, mais beaucoup divergent aussi. Donc on va voir dans quel ordre, effectivement, ça s'organise. Hein. On y va? On regarde? Parce que j'ai un peu de mal, là, à fédérer tous les avis. Hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'avis. Bien. On commence par le plus ancien. Alors, ça va peut-être en étonner certains ou certaines.
Ah, ça commence bien, oui.
Donc en fait là on est tout à fait au départ. Qu'est-ce qui peut quand même vous donner un indice pour vous dire qu'on est là au départ?
Il a été élève de Boucher.
Il a été élève de Boucher. Et alors justement?
C'est la même époque que les peintures
de Boucher. Ben oui, quand vous regardez ça. Je crois que ça nous rappelle beaucoup ce qu'on a vu il y a deux séances. Vous vous rappelez, il y a deux séances, les œuvres de Boucher, c'est ça. Hein. Là, on a vraiment un artiste qui est très proche de Boucher, qui fait du Boucher lisse, quoi. Hein. D'accord?
Il n'y en a pas une autre très...
Oh, il y en a toute une série. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ah, tu voulais dire dans la série de ce que je vous ai montré.
Il y en a une avec des... Je ne sais pas, peintres chromes, là.
Mais celle-ci est assez calme.
Oui, celle-là est assez. Alors, il se passe des choses, hein, c'est une peinture. Assez... Mais effectivement, il n'y a pas l'espèce de mouvement aussi bien des personnages que même de la touche qu'on verra plus tard. Hein. Là, il se passe des tas de trucs, vous avez des fleurs de tous les côtés, etc. Bon, c'est vraiment une peinture assez, vous voyez, déchargée, mais enfin, ça reste soft, pour parler bien français. Hein. Alors qu'on va avoir plus tard des choses un peu plus nerveuses, un peu plus énervées. Hein. Donc, effectivement, Boucher, Fragonard est au départ un élève de Boucher. Il a été d'ailleurs élève de deux artistes qui font partie de nos cinq artistes que nous voyons aujourd'hui.
Chardin.
Il a été également élève de Chardin. Avec Pierre Rey, ça s'est mieux passé.
Pas longtemps avec Chardin.
Très peu de temps avec Chardin. Et pourquoi ?
Trop méticuleux.
Pardon ?
Trop méticuleux.
C'est ça. Chardin, c'est vraiment un personnage, on l'a vu la dernière fois, hein. Vous savez, qui met trois jours pour faire une pomme, enfin voilà. Fragonard, c'est pas le genre. Enfin, là, en cinq minutes, il vous trousse un truc. Hein. Voilà. Donc Chardin, si vous voulez, il y a un côté comme ça, laborieux, on en a beaucoup parlé la fois dernière, hein, qui est vraiment l'antithèse de Fragonard. Fragonard, c'est quelqu'un qui, de plus en plus, va, j'allais dire, avoir un caractère, une action contendante avec la toile. Il y va, si vous voulez. Alors, avoir un Chardin qui, pendant des heures, fait un glacis sur une pomme pour qu'elle ne soit pas trop ceci et pas tout à fait cela, ce n'est pas du tout son affaire. Donc, elle est restée pendant quelques semaines dans son atelier, et puis elle est partie. Ce n'était pas du tout possible, quoi. Alors que Boucher, c'est évidemment beaucoup plus proche du travail de Fragonard. Et là, on a une œuvre de Fragonard, où là, vous voyez, une vingtaine d'années, hein, il est jeune, hein. Et qui est évidemment très 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 proche des œuvres de Boucher. Donc ça, c'est vraiment la toute première partie de la carrière de Fragonard. La deuxième, et vous aviez vu ça, oui. C'est ça.
Ça, c'est des œuvres classiques.
Alors, quand vous dites des œuvres classiques que l'on demandait, ça veut dire quoi précisément?
La commande.
Pardon?
C'est pas une commande.
Alors, c'est pas vraiment une commande. Qu'est-ce que ça peut être?
Bah, c'est un exercice
des écoles.
C'est
un exercice des écoles. Alors, salon.
C'est un monument connu.
Rappelez-vous du cursus des peintres.
C'est pour se préparer au
prix. Voilà. C'est pour se préparer au prix.
Éventuellement.
Voilà. Vous savez qu'on en a déjà parlé, par exemple, avec Boucher. Hein. Il est très, très important pour les peintres à cette époque. De préparer le prix de Rome. Tout simplement parce que s'ils l'obtiennent, ils sont ensuite envoyés en Italie, tout frais payé, si j'ose dire. Hein. Ils passent leurs années en Italie, ce qui est pour eux le Graal. Hein. Pour un peintre ou un sculpteur, hein, obtenir le prix de Rome, c'est donc aller plusieurs années à la Villa Mancini, qui n'était pas encore la Villa Médicis. Hein. La Villa Mancini, c'est venu en surface. Plus tard, la Villa Mancini a été vendue et la France a acheté la Villa Médicis, hein, l'époque de Napoléon. À cette époque, c'était sur le Corso de la Villa Mancini. Donc pendant une année, plusieurs années même, vous étiez nourri, logé, blanchi là. Et vous aviez face à vous Rome. Vous pouviez vous balader en toute l'Italie. C'était quand même bien, si vous voulez. Donc avoir le prix de Rome pour un artiste, c'est vraiment formidable. Quoi.
Puis on avait des clients. Quoi.
Pardon ?
On avait des clients.
Quoi. Et on avait des clients. Ça faisait une belle carte de visite, effectivement. Oui. Hein, voilà. Donc, Fragonard, il va tenter le prix de l'Europe avec le tableau que vous avez ici, hein, qui représente effectivement une scène biblique. Hein, d'ailleurs, vous en aviez parlé vous, tout à l'heure. Hein, c'est une scène biblique. Donc, on est là au départ d'un artiste encore jeune. Il a 20 ans. Hein. Ça vous dit quelque chose d'épisode de Jéroboam qui est sacrifié aux idoles?
Non.
Oui, c'est Jéroboam, c'est autre chose. Peut-être je vous raconte en deux mots, hein, Jéroboam est, je crois, le premier roi d'Israël, ou l'un des tout premiers. Et il se trouve qu'il a voulu sacrifier aux idoles. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un veau d'or là-haut qui trône. Hein, mais un prophète est venu et l'a tensé de vouloir ainsi se défaire de. Je dirais la foi qui aurait dû être la sienne. Et Jéroboam a tenté, n'est-ce pas, de repousser le prophète en question. Total, sa main droite s'est desséchée. Donc, vous voyez que sa main est en train de jaunir parce qu'elle dessèche comme celle d'une momie. Et bientôt, l'idole va, pouf, littéralement exploser. Alors là, on ne le voit pas encore, hein, mais ça va arriver. Hein. Alors, je vais vous couper le film, vous ne le verrez pas, mais voilà, c'est cet épisode-là. Hein. Donc, effectivement, c'est une grande peinture. À quel genre cette œuvre appartient? Vous vous rappelez, on a parlé la dernière fois de la hiérarchie des genres. Ça, c'est quoi?
La peinture classique.
Peinture d'histoire. Voilà. C'est la peinture d'histoire. Donc la peinture d'histoire, c'est des scènes bibliques, des scènes d'autres scènes qui peuvent être du Nouveau Testament, ou des scènes historiques qui n'ont pas besoin d'être religieuses. Hein. C'est donc le plus haut niveau de la peinture. Hein. On parlait la dernière fois de la hiérarchie des genres. Au niveau supérieur à la hiérarchie des genres, c'est la peinture d'histoire. Et évidemment, les prix de Rome se font non pas sur la nature morte ou le paysage, qui sont tout à fait au bas de cette hiérarchie de la peinture des genres, hein, mais ça se fait sur le genre le plus élevé, qui est la peinture d'histoire. Donc, forcément, c'est une peinture d'histoire. Et Fradonna va décrocher le prix de Rome. Il va l'avoir avec cette peinture. Donc, il va aller à Rome. D'où, vous voyez que tout ça est finalement très logique, hein, d'où ça? Ça, c'est quoi? C'est le Tivoli, hein. Et oui, c'est marqué. Mais ça vous dit quoi, ça?
Il sort un peu de Rome.
Il sort un peu de Rome. Il est le seul?
Non, avec Hubert Robert.
Il va effectivement avec Hubert Robert. Et est-ce que, à part Hubert Robert et Fragonard, c'est les deux qui sortent?
Non, il y en a d'autres.
Pardon?
Bien, je crois.
Alors, effectivement, à vrai dire, tous les artistes qui sont à l'Académie de France à Rome, qui obtiennent le prix de Rome, vont sortir de Rome et aller souvent dans le sud d'Italie, à Naples, etc. Pourquoi est-ce qu'ils vont très souvent à Tivoli?
Déjà, c'est pas très loin de Rome.
Déjà, c'est pas loin de Rome. Pardon? Oui, pour... Pourquoi est-ce que Tivoli est... Alors évidemment, c'est près de Rome, donc c'est pas très compliqué, il y a un métro direct, enfin là. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre raison qui fait que Tivoli, c'est vraiment près de Rome, ainsi que...
Il y a des belles ruines.
Il y a des belles ruines. Qu'est-ce qu'il y a comme ruine à Tivoli?
La villa d'Adrien.
La villa d'Adrien, hein, à Tivoli. Donc ça, c'est des ruines formidables, alors qu'elles n'étaient pas aussi visibles qu'elles le sont aujourd'hui, mais enfin quand même. Il y a la villa Adriana à Tivoli, donc ça déjà c'est pas mal. Hein. Puis il y a d'autres choses encore, il y a notamment le temple de la Sibylle, vous savez, au-dessus de la colline. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore à Tivoli? Pardon? Les jardins de quoi?
D'Est.
La villa d'Est. Hein. C'est quoi la villa d'Est?
C'est un palais
de la Renaissance. Bon, si vous voulez, vous allez à Tivoli, vous avez un, des ruines antiques formidables, grandioses, artistement ruiné, tout ce qu'il faut, plus un palais de la Renaissance, plus les jardins de ce palais en question. C'est déjà trois bonnes raisons. Un palais de la Renaissance, des ruines antiques, le jardin, trois raisons pour y aller. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore?
Il y a l'air d'avoir une jolie campagne aussi.
Ah voilà, il y a une nature grandiose, il y a une cascade, vous voyez. Il y a une cascade super, hein, énorme, avec plein de doses dans tous les sens. C'est donc formidable, tu l'es la nature. C'est pas que les jardins très, très travaillés de la ville d'Adeste, Tivoli. C'est aussi cette nature qui se faufile au milieu des ruines, des maisons, c'est extraordinaire. Puis qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a encore.
Les Italiens.
Il y a les Italiens. Ça, c'est quand même. C'est pas la moindre des choses. Et qu'est-ce qui intéresse, par exemple, Fragonard dans une œuvre telle que celle-ci?
La
vie quotidienne, mais est-ce qu'on peut dire ça, c'est une peinture de genre, la vie quotidienne?
Non.
Donc qu'est-ce qui...
Le cadre fait que ça n'est pas.
Voilà. Et donc qu'est-ce qui, dans une peinture comme ça, qu'est-ce qui intéresse Fragonard?
Le paysage.
L'ensemble.
Le paysage.
L'ensemble.
Voilà, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, si vous voulez, c'est à la fois ce paysage avec la nature grandiose, cette énorme cascade, mais en même temps, les blanchisseurs sont en train de trimer à la mer linge.
Ils sont petits, dans une grande échelle.
Pardon ?
Ils sont petits, dans une grande échelle.
Oui, absolument. Hein. Donc il y a effectivement cette dimension-là. Ce qui l'intéresse, si vous voulez, c'est à la fois le côté sublime du paysage, hein. Cascade, la nature est immense, il y a toujours des... Il y a donc déjà, on devine des ruines de maisons plus ou moins anciennes, un peu médiévales, etc. Enfin bref, il y a là des bouts de sculptures antiques, vous voyez, voilà. Et en même temps, il y a le pittoresque, donc cette espèce de cohabitation d'un pittoresque absolument trivial, elles sont en train de laver leur linge, il n'y a rien d'extravagant, quoi, hein. Mais à côté de ruines antiques, hein, c'est le plus bas qui côtoie le plus haut, d'une certaine manière, hein. Au milieu d'un paysage immense, avec une nature extravagante, c'est ça qui l'intéresse. voyez ce que je veux, et qui intéresse beaucoup des gens. C'est-à-dire que le pittoresque de Tivoli permet de mettre côte à côte tous ces éléments-là. D'ailleurs, vous savez quoi, Fragonard, quand il va arriver en Italie après son concours de Rome, jeune peintre, il y a une vingtaine d'années, hein, va à Rome et dans les cités alentours, être tellement, comment vous dire, submergé par la qualité de ce qu'il va voir, que pendant une année, ça va être le burn-out.
Ah,
il va...
Déjà, le syndrome de Stendhal avant l'heure.
C'est ça. C'est ça. Ça va être l'espèce de spleen, finalement. Hein. C'est-à-dire pendant une année, il est incapable de rien faire. C'est trop, si vous voulez. C'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop ancien, c'est trop... Il y a trop de choses. Comment voulez-vous vous mesurer à ça? Lui, Pierre de Vin, bon, il a eu son prix de robe, ok, il roule un peu des mécaniques, hein, mais en même temps, si vous voulez, c'est trop, quoi. C'est énorme. Rendez compte, un jeune homme qui voit que, genre, lui qui croit que, ouais, ben, ça, il voit tout ça. C'est énorme. Donc, si vous voulez, c'est. Ah, et donc, il va vraiment falloir, d'ailleurs, que le directeur de l'Académie de France à Rome, qui je crois était natoire à cette époque-là, regonfle, j'allais dire, Fragonard, pour qu'après, au bout d'une année, il commence à s'y remettre. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Alors, ensuite, on a ça. Et ça, alors, qu'est-ce que vous direz?
Il s'intéresse plus aux gens.
Oui.
Oui.
Il est difficile à lire, ce tableau.
Pardon?
Il est difficile à lire, ce tableau. Elles sont à l'intérieur, en contrebas, c'est ça?
Ben, on ne sait pas trop. Je suis d'accord avec vous, je crois que c'est un peu difficile. D'ailleurs, ça fait partie du truc. Voilà, est-ce que c'est tout est à l'intérieur ou est-ce qu'il y a l'intérieur à l'extérieur? C'est difficile de savoir. Hein, c'est... Donc là, qu'est-ce qui intéresse Fred? Mettez-vous dans la perspective du précédent.
Et la lumière. Ben là, il a fait le zoom sur le personnage.
Oui.
L'atmosphère, il y a de la brume, il y a
les
couleurs, les tissus, il y a beaucoup d'activités là.
Oui.
Activités diverses.
Oui. On ne fait pas que laver le linge.
Non.
Mais on fait toutes sortes de choses. Bon. Voilà. On ne sait pas trop d'ailleurs. Enfin voilà, il se passe des choses diverses et variées. Il y a au premier plan un homme qui joue avec un enfant, il y a un chien.
C'est le seul qui nous regarde.
Oui,
le chien.
Il y a des lavandières, et puis il y a des gens qui amènent ou qui ramènent toutes sortes de choses. Voilà, il y a quand même une activité. Hein. Voilà. C'est suffisamment brumeux, etc. Et qu'est-ce qui peut-être vous frappe par rapport aux œuvres qu'on a vues avant, au niveau cette fois de la technique, peut-être?
Cette femme blanche.
C'est, pardon?
Cette femme en blanc qui ressort.
Oui.
C'est moins précis.
C'est moins précis. C'est ça. Il y a alors évidemment, le contour du prix de Rome, vous voyez, était forcément le contour du prix de Rome, il faut chialer le truc. Hein. Là, évidemment, on sent une espèce de touche, si vous voulez, qui arrive. Vous voyez, regardez comment c'est fait, ça. Hein. C'est plus la qualité un peu feutrée des vêtements de Jéroboam qui sacrifie aux idoles. On est là dans quelque chose vraiment.
C'est plus tropique.
Voilà, oui, c'est ça. Et pourtant, c'est définitif. Hein.
Plus rapide.
Voilà, il y a une rapidité du fer, effectivement. Il y a toujours ce même pittoresque. Là, c'est un peu comme si, vous voyez, s'il avait fait un focus sur ce qu'on a vu tout à l'heure à Tivoli. Hein. Ouais. Cette fois, ça intéresse vraiment, effectivement, au côté. Mais il y a toujours le même pittoresque. Vous avez une colonne, peut-être antique. Vous avez encore ces gens qui, peut-être, sont là dans une ancienne ruine antique qui a été transformée en lieu où on fait mon blanchine, là. Vous voyez, il y a effectivement ce côté un peu fumeux, rêveur. Enfin, voilà. Il y a des animaux, des personnages, des vieux, des jeunes, des gens qui font rien, des gens qui travaillent. Enfin, une espèce de pittoresque de la vie italienne le passionne. Et donc, il va vraiment réaliser beaucoup de choses comme ça. Le pittoresque, le piquant du pittoresque, c'est vraiment quelque chose qui le passionne. Ensuite, c'est ça. Qu'est-ce que vous auriez à dire de ça?
C'est très nordique.
Oui, effectivement. Donc là, ça fait partie des paysages, dont vous en parliez tout à l'heure. Hein. Parce que Fragonard est quelqu'un qui va avoir cette espèce de choc de l'Italie. Hein. normal, puisqu'il est en Italie, mais c'est aussi quelqu'un hein, qui connaît bien la peinture du Nord. Et là, vous avez effectivement un paysage qui est très, très marqué hein, par sa connaissance de, voilà, de la peinture flamande et hollandaise. Ok. Donc là, il est revenu en France et il fait ce genre de choses. Alors, pardon.
Il n'y avait plus assez de peinture pour faire les cheveux.
On peut voir ça comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit. Alors là, qu'est-ce que vous auriez à dire? Vous pouvez parler à la fois du sujet, de la manière de le traiter, etc.
Là, c'est des petites
touches. Oui. Voilà. Là, alors là, je crois qu'on retrouve ce qu'on a vu en scène des blanchisseuses il y a deux diapos. Et vraiment, on voit bien comment la technique Fragonard se forge. On n'est plus du tout avec le Colin Maillard de Néo Boucher tout à l'heure, hein, ni avec le Girobard. Hein. On est là devant une touche, et une touche qui ne se cache pas. Hein. C'est pas ça, ce n'est pas une esquisse d'un tableau à finir, hein. C'est un tableau fini. Et donc ce qui intéresse, là, Fragonard, mais également ses collectionneurs, hein, c'est justement une espèce de, comme disent les Italiens, fa presto, c'est-à-dire cette espèce de manière rapide de faire une peinture. On voit le geste. Décidément, on est loin de Chardin. Chardin, même s'il y a chez Chardin, la touche est existante, hein, mais elle est faite par glacis successifs, comme ça, jour après jour. Là, il vous bon sens. Hein, en deux heures, c'est réglé. C'est ça. Donc, effectivement, on voit ça là. Hein, regardez la façon dont tout ça est troussé, n'est-ce pas? Pas donc, bon, vraiment. Qu'est-ce que vous avez à dire au niveau du sujet?
Toujours la recherche du pittoresque.
Du pittoresque, oui.
Puis l'expression,
oui. Oui. Alors, quand vous dites soit expression de pittoresque, si vous creusez un peu, vous diriez quoi?
Pour le visage, mais aussi pour les
regards.
Le regard expressif. Hein.
Mais quand vous parlez de pittoresque, que vous pensez à quoi, là?
En fait, on représente un vieux monsieur sans laisser... Oui. Un prêtre, un héros, un dieu.
Donc l'idée de représenter un personnage un peu, comment dire, anonyme, c'est ça?
Oui.
Mais qu'il ne soit pas un héros ou un personnage particulièrement remarquable. C'est une sorte de figure, point. Et où effectivement l'expression est importante. Et une expression qui vous suggère quoi?
Pénétrante.
Pardon?
Une expression pénétrante.
Oui.
Il y a de la bienveillance.
Oui.
Oui, sérénité, je pense.
Une sérénité?
Oui.
Moi, j'ai la sérénité relative. Je trouve que c'est quand même un peu grave. Oui, moi je trouve que c'est à la fois serein mais un peu sévère quand même.
Oui, oui, oui. Qui est surpris, non?
Ouais.
Sur la méfiance.
Ah oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a un côté.
Mais nous écoute. Hein.
Oui.
On a l'impression d'un regard de reproche.
Oui, ou d'interrogation.
D'inquisition.
Oui. D'inquisition, je ne sais pas. Bon, enfin, chacun, mais non, ce qu'il veut. Mais en tout cas, on peut y voir la sérénité comme l'inverse, etc. Mais en tout cas, il y a effectivement une expression chargée, peut-être plurielle. Mm-hmm. En tout cas, c'est pas neutre. Quoi. Mm-hmm. Enfin, je crois qu'on peut le dire. Pardon.
Il y a la sévérité là-dedans.
Oui, moi je le trouve aussi.
Mais il ne s'ose pas pour se faire voir.
Oui. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas séduisant. Le fait est que c'est pas une jeune fille à la bouchée un peu mignonne qui fait un petit sourire. Hein. On est là devant quelque chose, qu'on y voit de la sérénité ou pas, il y a en tout cas une espèce de force de l'expression.
Et du gravité.
Oui. Pardon, vous disiez?
C'est le père de la jeune fille.
Ah, peut-être. Alors, on regarde le suivant. Ouais. Ben, y a de quoi, d'ailleurs.
Ça fait beaucoup plus classique.
Hein. Oui, ça fait beaucoup plus classique, effectivement. Ouais.
Une horizontale, deux verticales, enfin, c'est une composition beaucoup plus classique.
Effectivement, on a une composition beaucoup plus, entre guillemets, classique. Bon.
Et avec un mouvement...
un peu emphatique.
Oui, une sorte de... Il se passe, en tout cas, il se passe quelque chose. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui se passe là?
Ça bouge dans un
drame. Il y a un drame, une catastrophe, mais laquelle? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Des acteurs de films muets. Oui, c'est vrai qu'il y a, une gestuelle telle que... On peut comprendre, même si on ne connaît pas l'histoire. Je sais que vous connaissez tous l'histoire de Corée Suscrédit, mais si vous ne la connaissiez pas, vous pourriez la deviner.
Il y en a une qui se trucide.
Poignard.
Elle se connaît. Poignard.
Elle est pas du poignard.
Bah, le poignard, il est dans le ventre. Donc on ne voit pas parce qu'il est déjà rentré.
Mais elle ne saigne encore pas.
Non, ça ne va pas tarder.
Et puis il y en a une qui s'évanouit. Peut-être qu'elle est déjà morte.
Elle est morte, elle
est peut-être blanche. Oui, elle est peut-être déjà morte.
Elle est déjà morte. Donc il y en a une déjà morte et une qui va mourir.
Parce que l'autre est morte, parce qu'elle se suicide.
Et dans quel cadre ça se passe, ça? On est à quelle époque? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas, le sujet, c'est quoi? Ah oui, vous avez
romain,
les...
mythologique.
Romain ou mythologique? En tout cas, antique, quelque chose de gréco-romain.
Antique.
Une chose antique.
Il y a des vieux qui regardent derrière.
Oui, il y a des vieux qui... Vous savez, à votre avis, dans quel...
Il n'y a pas une idée de vengeance là-haut?
Ce qui vole au-dessus, là.
Il a un poignard dans la main.
Oui. Alors, est-ce que l'histoire précise, vous la connaissez?
Non.
Alors, je vous la raconte un peu de mémoire, donc il y aura peut-être un peu de flottement, mais on est dans l'Antiquité, effectivement. Je ne sais plus si c'est en Grèce ou en Italie, j'avoue, mais enfin bref, il y a la peste. Et on doit, il se trouve que les oracles vont, signer, enfin, vont identifier qu'il faut tuer, enfin sacrifier, une jeune femme qui est, je crois, alors c'est pareil, corrigez-vous, car je ne sais jamais quel est l'homme, quelle est la femme. Je crois que c'est Caliroé. Et donc on amène Caliroé au temple pour la sacrifier. Alors, vous voyez que tout est prêt, on est prêt, il y a l'autel qui est là, on amène ce qu'il faut pour recueillir les entrailles, enfin tout est parfait. Sauf que le prêtre qui doit sacrifier Caliroé, qui s'appelle Corésus, car celui que vous prenez pour une femme, c'est un homme, va prendre le couteau qu'on lui donne pour sacrifier Caliroé, et il va en fait se sacrifier lui-même. Voilà. Parce qu'il est amoureux de Caliroé. Donc elle s'effondre parce qu'elle s'évanouit. Hein, parce que entre le fait qu'elle va être sacrifiée et qu'elle voit que celui qui doit la sacrifier se sacrifie, ça fait un peu beaucoup. Donc elle s'écroule, elle s'effondre, elle se pâme, et lui, il se plonge le poignard. Voilà. Donc effectivement, c'est une scène où il y a suffisamment de pathos, nous dirons. Hein. Voilà. Donc vous avez bien vu que c'est une scène, où il y avait toute une gestuelle. Voilà, c'est un tableau de grande dimension. Hein. Alors pourquoi Fragonard, qui avant de nous montrer des blanchisseuses, éventuellement un monsieur qui nous regarde venir un peu comme ça, circonspecte, pourquoi est-ce que soudain, paf, il nous montre un grand thème bien l'Antiquité?
Il n'aurait pas envie d'entrer à l'Académie.
Ah! Non seulement il n'aurait pas, mais il a envie, effectivement, vous avez raison. Fragonard, il a envie d'entrer à l'Académie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on entre à l'Académie? Eh bien voilà, on présente une œuvre, et on dit, ben voilà ce que je suis capable de faire, Et voilà. Et alors, on entre à l'académie tout de suite ?
Non, il y a deux étapes.
Il y a deux étapes.
L'agrément et la réception.
Exactement. D'ailleurs, on avait vu ça pour Chardin. Vous vous rappelez pour Chardin ? Qu'est-ce qui s'est passé pour Chardin ? Voilà. Hein, il a été agréé et reçu en même temps. Parce que si une chose est agréée, en gros, vous montrez une œuvre, vous êtes agréé, donc vous dites OK, vous allez pouvoir rentrer. Enfin, attendez, vous n'êtes pas reçu encore. Enfin, vous montriez autre chose, et là, vous serez reçu. Si ça marche. Et Chardin, vous rappelez avec quel tableau ? Oh. Pardon ? Non. La raie. Avec la raie, Chardin a été agréé et reçu en même temps. Vous vous rappelez, c'est fou. Hein ? Alors que là, Fragonard va être agréé. En général, c'est ce qui se passait. Hein. Bon, Chardin, c'était tout. Là, si vous voulez, Fragonard, bon, il va être agréé avec ce tableau. Il restait à être reçu.
Oui, mais il n'a peut-être jamais été reçu.
Exactement.
Parce qu'il n'a rien fait.
Exactement. Absolument. C'est-à-dire que Fragonard, il a donc fait ce tableau-là, il a été agréé, ce qui fait qu'il devait ensuite, parce que ça c'est automatique, il devait ensuite, je ne sais plus quel était le laps de temps, mais enfin il devait ensuite, genre 5 ans après, ou pire, quoi, donner un morceau de réception sur lequel il était reçu et on validait son entrée à l'académie. Or, Fragonard ne va jamais faire son morceau de réception. Jamais. Jusqu'à très tard, l'académie va le tanner en lui disant, en gros, tous les ans, enfin, donnez votre morceau de réception ou pas. Il ne va jamais le faire. Donc, il ne sera jamais reçu à l'académie. Il a été agréé, jamais reçu, parce qu'il n'a jamais fait son morceau de réception. Pourquoi ?
Les peintures d'histoire que vous nous avez montrées sont quasiment stables, qu'il est fait donc, pour entrer dans des concours, quoi.
Ben, on va voir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Parce qu'effectivement, ça c'est une peinture d'histoire. On en a vu l'avant, hein, je vais revoir. Hein. On va voir si on en vaut ou pas. Mais c'est vrai que vous avez raison de souligner que la peinture d'histoire n'est peut-être pas le premier genre dans lequel Fragonard travaille. Encore que, peut-être plus on imagine. De ça, on va reparler. Voilà, en tout cas, voilà, il fait ce tableau-là, il est à l'Académie, il ne sera jamais reçu. Parce que Fragonard, c'est pas, je veux dire, Fragonard, c'est un électron libre. Alors, Fragonard, vous n'allez pas lui dire, alors maintenant, dans 5 ans, il faut faire. C'est pas le genre. Fragonard, c'est. Parlant de tous les sens, sa peinture le montre bien. Fragonard, c'est un effervescent. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas toujours très. Qui est d'une fiabilité relative.
Ça bouge.
Ça vous rappelle quoi ?
Le vieillard du Picasso.
Alors là, c'est pas un vieillard, c'est qui ?
Le
médecin.
Il
était un peu son protecteur.
Il ne fait pas très habillé.
Il ne fait pas très habillé, pourquoi ?
Son vêtement.
Son vêtement. Son vêtement de quoi ?
Oui.
Oui.
J'aurais vu un comédien.
Oui, ce vêtement de comédien, ça nous rappelle qui d'ailleurs ?
Pierrot.
Donc, ça nous rappelle quel peintre ? Watteau. On a l'impression d'être devant Watteau. Hein, on a l'impression d'être devant un des personnages de la comédie de l'Arte que Watteau a si souvent représenté. Voilà. Effectivement, un abbé, bon, il a déjà fait un peu l'Est à cette époque, mais qu'est-ce qui va l'intéresser Fragonard aussi ? Avec l'abbé de Saint-Lô qui est effectivement plus un ami et protecteur qu'un abbé un peu austère. Qu'est-ce qui l'intéresse, la Fragonard ? Oui. Oui. Et c'est vraiment montrer quoi ?
L'expressivité.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est simplement un portrait ? Pour un portrait, il aurait pas mis les vêtements d'un comédien, un comédien de l'art.
Dans les figures de fantaisie, peut-être.
Alors voilà, Fragonard va faire effectivement toute une série de figures de fantaisie. On les appelle comme ça, parce que plus que des portraits ressemblants de personnages, d'ailleurs récemment on a pu voir que certains portraits, on les avait mal identifiés, en fait c'est plus des espèces de figures de fantaisie, comme le nom l'indique. C'est-à-dire que plutôt que de montrer ici l'abbé de Saint-Lô avec son, voilà, de face, avec ses vrais traits, avec son habit, etc., il va, si vous voulez, ce que dire, le botoxé d'une manière fantaisiste. L'idée est, j'allais dire, de dépasser l'idée du portrait pour en faire une figure. Un portrait, c'est pas pareil. Une figure, c'est plus anonyme. Plus... Ça montre plus un type que la réalité physique de quelqu'un. Là, ce qu'il y a, c'est pas forcément de montrer exactement la tête au salon, même s'il le montre, mais c'est de lui donner une sorte de, j'allais dire, d'humanité supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Par le biais de la fantaisie. Donc l'idée n'est pas de faire comme ça laborieusement le portrait de quelqu'un, c'est de dépasser ça. D'accord ? Ça fait penser à Boucher, vous avez raison, mais moi je dis mettre un mec quand même.
C'est plus drôle.
C'est plus drôle, quelque part. C'est plus joyeux, c'est plus. Voilà. Boucher, il y a toujours une chose un peu glacée. Et même s'il y a suffisamment de fesses un peu nues chez Boucher, il n'y a pas cette espèce de.
Légèreté, là.
Ouais, c'est ça, de légèreté. Boucher est toujours un peu glacé.
Oui,
pardon.
C'est la touche qui fait penser
à Boucher. En même temps, cette touche-là, je trouve que chez Boucher, on ne la trouve pas. Hein. Chez Boucher, la touche est beaucoup plus tenue, si vous voulez. Hein. Boucher, il n'y a pas ce côté fa presto hein, qui est là. Regardez-moi comment c'est fait tout ça. Hein. C'est vraiment rapide. Voilà. Boucher, c'est beaucoup plus travaillé. C'est plus. Hein. Boucher, il y a des glacis. Il y a des... Là, on est toujours. Finalement, c'est des dames nues. Dans un paysage, mais tout ça est traité comme notre tête d'homme de tout à l'heure, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, Boucher, il n'y a pas trop, il y a un peu, notamment sur, dans les tableaux un peu esquisses, vous vous rappelez, de l'enlèvement d'Europe aux grisailles, que vous avez vu, par exemple. Ça, oui. Mais dans les tableaux finis de Boucher, il n'y a pas ça. La tableau de Boucher, c'est décidément un travail beaucoup plus lissé, si vous voulez. Là, on est toujours dans une espèce de manière, j'allais dire que là, là, on a des dames nues qui ont l'air de sauter les unes au-dessus des autres, dans l'eau, enfin, on ne sait pas très bien ce qui se passe d'ailleurs. Une espèce de tourbillonnement, de feu d'artifice de chair, et quelque chose que. Une espèce de joie amusée, qui plaisait plus ou moins à Diderot d'ailleurs. Hein. Diderot a commencé à. Lui qui s'intéressait beaucoup à Fragonard au départ, a commencé à tendre le nez. Hein. Vous connaissez la phrase de Diderot lorsque un jour il voit au salon un tableau de Fragonard qui montre qui est au musée de Lourdes aujourd'hui, qui montre des petits amours les uns au-dessus des autres. Il a dit que c'était, je reprends sa phrase, une omelette mal cuite et oh j'aurais dû la et bien brûlée je crois précisément. Une omelette d'amour. Mal cuite et bien brûlée. Enfin, voilà. Certains ont une espèce d'amoncellement de chair qui n'a pas la. Encore une fois, l'espèce de côté un peu respectable encore de Boucher, hein, qui est plus dans la précision. C'était un peu trop. Et en fait, Fragonard va être un peu à la croisée des chemins, si vous voulez. Parce qu'en même temps, cette période, il fait des choses comme ça. C'est quoi ça ? Oui, mais ça vient de la Jérusalem délivrée. Voilà. Il se passe quoi ? Renaud Armide, c'est quoi ? Disons que c'était un paladin, c'était un chevalier, oui. 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 Et lui est quoi ? Elle est quoi ? Au-delà du fait que lui. C'est une sorte de paladin occidental et être une magicienne.
Elle l'aime.
Ah oui, il s'aime. Enfin, elle l'aime. Lui, au départ, l'aime pas. Différemment, il va l'aimer, mais il y a un problème, quand même. De taille. En tout cas, dans le Jérusalem délivré, c'est un gros problème, ça.
Change de statut.
Oui, mais elle, c'est plus ou moins une magicienne qui est une reine. Hein. Donc tout va bien,
c'est
voilà.
C'est une semi-déesse.
Oui. Mais surtout, il y a un problème. Il y a un truc qui s'appelle la Jérusalem délivrée, qui raconte les croisades.
Problème de religion.
Bah oui, lequel ?
Lui, c'est le chrétien.
Lui, il est chrétien et elle ? Elle est musulmane. Donc, vous avez là un prince chrétien qui est quand même en terre sainte pour délivrer Jérusalem, d'où le nom la Jérusalem délivrée. Hein. Seulement, ça ne se délivre pas comme ça, Jérusalem. Il se passe pour des tas de trucs, encore aujourd'hui. Ce qui fait que il y a des quantités d'histoires avec toute une série de princes ou princesses musulmanes, dont Armide, qui est une princesse magicienne, et en fait, elle est tombée amoureuse de Renaud. Elle va entraîner Renaud dans ses jardins merveilleux, et Armide, qui arrive, Renaud par contre qui arrive et qui voyait à l'épée au côté, qui est prêt à trucider Armide, hein, va tomber amoureux d'Armide. Donc voilà, c'est... Alors qu'est-ce que vous diriez au-delà de cette scène? Ça, ça appartient à quel genre?
D'histoire.
Voilà, c'est de la peinture d'histoire. C'est de la peinture d'histoire. Bien. Donc vous voyez que là, Fragonard, il hésite finalement entre cette peinture légère de jeunes dames en train de se baigner, qu'on vient voir, hein, dans quelques ruisseaux en s'amusant un maximum, et puis la peinture d'histoire. En fait, il va de la peinture de genre à la peinture d'histoire. Une peinture futile à une peinture grandiose. Hein. Là, on nous montre une croisade avec le conflit des religions. C'est autre chose que trois nymphettes qui se baignent dans la flotte. Vous êtes d'accord? Vous voyez que c'est le grand écart, si vous voulez, c'est le grand écart.
C'est quand même traité plus comme,
alors, comme voilà.
Les nymphettes dans
c'est
la
c'est ça, nationale. Absolument. Là, mais, alors, vous voyez qu'il y a, là un traitement. Alors, j'allais dire... ultra touche. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment parmi les tableaux les plus, si j'ose dire, touchistes de Fragonard. Vous voyez comment c'est fait. Hein.
C'est un grand tableau?
C'est comme ça. Ah oui, c'est pas un petit truc comme ça. Hein. Et c'est un tableau fini. Hein. C'est fini. C'est pas un tableau de plein d'excuses, d'un tableau. Non, c'est un tableau terminé. C'est étonnant quand même. Hein. Donc vous voyez que Fragonard va être quand même une grande partie de sa vie comme ça, et surtout dans cette période-là, un peu hésitant entre l'un et l'autre. Et puis... Ouais.
Ça c'est Fragonard.
Pour... Exact. Exactement. C'est-à-dire que Fragonard va effectivement... Parce que Fragonard va gagner une certaine notoriété, et même une notoriété certaine, malgré son côté un peu foufou. Hein. Et Madame du Barry, qui n'est pas n'importe qui, hein, qui est la maîtresse de Louis XV, va lui commander un décor pour son pavillon de Louvciel. Et donc, Fragonard va faire le décor, quatre grandes toiles, dont celle-ci. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer?
Elle n'en voudra pas.
Elle n'en voudra pas. Ah oui, il va mettre un peu de temps pour le faire. La commande est, je crois, de 70. Il va véritablement terminer les tableaux plusieurs années après. Ça, c'est du Frago tout craché. Hein. Vous avez une commande, Madame du Barry, qui est en gros la femme la mieux placée en France avec la reine. Hein. Il fait une commande. Il met en gros 5 ans pour l'honorer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Fragonard, vraiment, il est terrible. On ne peut rien attendre de lui. Il reçoit une commande inespérée. Il met 5 ans pour la réaliser. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 5 ans? La mode change. Et vers quoi, dans les années 70, on va?
Vers le
néoclassique. C'est-à-dire qu'à la fin du 18e, on arrive vers le néoclassique. C'est quoi le néoclassicisme? C'est ça, une sorte de retour à l'antique. Et qui est marqué peut-être par quoi, si vous aviez en deux mots, à dire deux, trois mots.
L'architecture. Je fais cela aussi.
Pardon? L'architecture.
Mais se manifeste vraiment.
Oui.
Et la cadre. Et du coup, la touche, elle est plus du tout.
C'est ça. C'est-à-dire que finalement, vous avez dit le mot de rigueur. Je crois que c'est assez juste. Et c'est une rigueur qui est dans le néoclassicisme. Hein, autant formel, c'est-à-dire que fini ces petites fleurs dans tous les coins et ce bazar de végétal que vous voyez là, hein, on va mettre évidemment une architecture, des colonnes, tout ça est très orthogonné, etc. Plus question de petites fleurettes et de statuettes, hein, voilà, fini. Mais il y a également une rigueur morale. Il n'est plus question de montrer, là, vous voyez, une dame qui est surprise par un homme, enfin voilà, ça c'est fini. Avec le néoclassicisme, on montre les grands sujets. Terminé ce genre de futilité-là. Fini. Donc Fragonard, qui met 5 ans en gros hein, pour faire sa commande pour du Barry, au départ il est encore à la mode, si vous voulez, il est même assez installé, et puis 5 ans après ça marche plus. Il y aurait Madame du Barry, quand elle va voir ça, elle va se dire, mais c'est terminé, quoi, c'est plus à la mode. Madame du Barry, c'est une femme à la mode. Hein. Donc il lui faut plus des frères Bonnard, ça c'est un peu vidéo, non. Il lui faut, elle va commander des tableaux à Vien, qui est un artiste super néoclassique, qui va évidemment lui faire des choses beaucoup plus morales, des sortes de choses à l'antique. Voilà. Donc voilà, ça c'est le, on va dire, le, une sorte de ratage de Fragonard. Alors, ça n'est pas raté pour tout le monde, hein. Plus tard, ça va être, Fragonard va reprendre ses œuvres, elles seront plus tard achetées par Afrique Collection à New York, etc., où elles s'y trouvent. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment Fragonard est quelqu'un qui, avec cette espèce de personnalité, va là subir une sorte de déconvenue, pourrait-on dire. Alors, on termine. Oui, qui vous rappelle quoi peut-être ?
Oui, il est la pendière.
Oui, voilà. C'est, vous voyez que Fragonard, il récidive dans le pittoresque. Voilà. Effectivement, ça rappelle les Lavandières tout à l'heure, une scène pittoresque. Fragonard, finalement, revient à ces amours-là. C'est un peintre qui est fait pour ça. Et là, qu'est-ce que vous auriez à dire de ça ? Ça, on est devant quel genre pictural ? Pardon ? Biblique, c'est bien peinture d'histoire, absolument. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire aussi ?
C'était sa manière, c'est inattendu.
C'est ça. Oui, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une peinture d'histoire traitée comme une peinture de genre ?
Oui, c'est
ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans Corésus et Caliroé, n'est-ce pas, ou dans je ne sais quoi, ou dans Jéroboam. On est devant une sainte famille. Alors, là, c'est un sujet sérieux, hein. Mais c'est traité avec une sorte de futilité aimable, brossée, qui est vraiment... C'est, vous voyez, Fragonard, finalement, fait dans des œuvres comme ça une sorte de synthèse, pourrait-on dire, entre ces deux amours, la peinture d'histoire, hein, suffisamment grandiose, même si toujours un peu embrumée, et la peinture pittoresque, qui a été son grand domaine. Ça vous va, ça ?
D'ailleurs, on ne voit pas, a priori, que c'est la Sainte Famille. Hein.
Non, ce n'est pas évident. Hein, c'est le repos du roi de la fuite en Égypte. Hein, un moment quand même un peu lourd. Hein. Or là, c'est assez... Voilà. Oui. Et puis enfin, ce dernier-là.
Il calme sa façon de peindre par le flou.
Mais c'est très flou. Hein?
Oui, oui, c'est une chose qui est fréquente chez lui. Mais et qu'est-ce que ce tableau peut vous inspirer aussi ? Par rapport à ce qu'on vient de voir.
Il y a un peu d'antiquité quand même.
Oui.
Voilà. Il s'essaye quand même à un gros genre.
Eh oui. Je crois que, j'allais dire même au nouveau style, entre guillemets. Hein. Parce que quand on voit une œuvre telle que celle-ci, on est assez loin de tout ce qu'on a vu avant. Hein. On n'est plus avec les blanchisseuses italiennes ou avec les petits chiens qui font le beau. On n'est même plus avec la Sainte Famille durant la fuite en Égypte. Hein. On est là. Puis les deux personnages que vous avez là sont présentés à l'antique. C'est presque deux sculptures en marbre qui seraient mises à courir. On a là finalement effectivement une peinture qui, à la fin de la carrière de Fragonard, montre que il finit par tremper son pinceau dans le néoclassicisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, vous le ressentez ça ?
Léger, bien.
Pardon ?
Léger quand même.
Léger. Léger. Il y a des restes. Hein. On ne s'improvise pas néoclassique du jour au lendemain, effectivement.
Il pourrait y avoir d'autres sous-titres. C'est pour être.
Chassé du paradis, oui. Ouais. Mais c'est pas ça. Je crois qu'il serait un peu moins gai. Ce tableau, il date de 1785. On est devant un des derniers tableaux de la carrière de l'artiste. Ça veut dire quoi ?
Il y a 20 ans
Il va peindre, mais beaucoup moins. La fin de la carrière de Fragonard est un peu déprimée, si j'ose dire.
Il y a quand même la Révolution.
Ouais, alors là, il y a la Révolution. Où il va, mais Fragonard, oui, durant la Révolution, ça va être un peu courage fuyant. Hein. Pas pour l'un côté, pas trop dans l'autre. Pour être heureux, vivant caché. Voilà, hein. En plus, il est dans une période un peu compliquée. Fragonard est d'une personnalité un peu compliquée, hein, semble-t-il. Enfin, je ne l'ai pas connu, vous non plus, je pense pas. Mais bah, c'est une personnalité un peu complexe. Et voilà, tout comme on a déjà vu qu'à plusieurs reprises, hein, il crée un centre de problèmes. On a vu sa aventure avec Madame du Barry, etc. Voilà, là, il va voir à la fin de sa vie, c'est pas qu'il peint plus, mais il peint beaucoup moins. Et on va voir dans un instant, d'ailleurs en plus, un autre événement. En tout cas, voilà. Alors, on a pris pas mal de temps pour regarder tout ça, mais je pense que ça valait la peine de prendre du temps pour remettre un peu toutes ces cartes dans l'ordre. Est-ce que ça vous paraît plus évident, plus simple, maintenant ? Ouais. L'évolution de la carrière de Fragonard. Alors, maintenant, on va voir, mais peut-être un peu plus vite, hein. On va revoir les œuvres, parce que là, vous savez, quand on regarde le répertoire... On revoit un peu ça, en remontant un peu rapidement. Voilà, une œuvre du début, qu'est-ce que vous diriez là ?
Ça rappelle
Colin Maillard. Ça rappelle Colin, donc ça rappelle qui ?
Boucher.
Boucher, ça rappelle Boucher. Hein. On est vraiment... Ça marqué Boucher, vous ne diriez pas, le cartel est raté. Ça, c'est vraiment une œuvre très, très proche de Boucher. C'est Fragonard, au départ, comme le Colin Maillard, c'est proche de Boucher. Et ça, qu'est-ce que vous auriez à en dire ? Pardon ?
Oui, c'est le même sujet que le dernier.
Oui, absolument, mais beaucoup plus tôt.
Joseph Servier.
Et qu'est-ce que ça peut vous faire... C'est quoi ça peut vous faire penser, ça ? Au niveau du style général. Ça me paraît très visible, non ?
C'est un peu comme le Jéroboam.
C'est vrai.
C'est une commande pour une vie.
C'est peut-être pas sûr. C'est peut-être une commande, je ne saurais pas vous dire. Mais au niveau du style, la façon de peindre, la façon de
construire. C'est une peinture lisse.
Oui.
La touche, on la voit plus.
Hein. Oui, on ne la voit pas encore, je dirais. On est tôt, hein. On est tôt, attention, hein. On est très tôt. Olivier, on la voit pas encore, ça reste lisse, c'est vrai. Mm-hmm. Moi, ce qui est frappant, c'est qu'elle est obscure, et surtout l'obscur. Ça vous rappelle rien, ça ? Oui. Ça ne vous rappelle pas Rembrandt ? Rembrandt ?
Oui,
on connaît. Rembrandt.
Oui.
Rembrandt, c'est le clair-obscur. Okay. Rembrandt, c'est ça. Hein. Vous avez tous vu les œuvres de Rembrandt. Rembrandt, c'est tout noir. Et puis il y a.
Non, mais c'est lumineux un peu partout quand même.
Oh, mais enfin, quand même, quand vous voyez l'arrière, tout ça, c'est quand même très très sombre. Hein. Ce qui est lumineux, c'est les trois protagonistes et puis l'âne. Parce que, en fait, tout comme on a vu tout à l'heure que Fragonard s'était beaucoup intéressé à beaucoup regarder les paysages nordiques, il a aussi beaucoup regardé la peinture nordique en général, les Rembrandt. C'est un peu avec la peinture italienne, c'est un peu le deuxième fer au feu de Fragonard, si vous voulez. En plus, Rembrandt, vous voyez, il y a chez Rembrandt une espèce de touche, etc., qui va beaucoup marquer Fragonard. Donc, si vous voulez, Fragonard, il regarde toujours de ce côté-là. Rembrandt et peut-être d'autres artistes du Nord. Vous verriez d'autres artistes nordiques qui, comme ça, pourraient faire penser à...
Je ne retrouve pas son nom, mais quelqu'un qui fait des portraits...
Et... Oui, allez. Avec beaucoup de touches comme ça.
Oui.
Ah oui, c'est qui ?
Hals.
Franz Hals. Donc voilà, il y a dans ce Fragonard, surtout le Fragonard tôt, hein, toujours cette manière de faire du clair-obscur, qui est une chose très... Vous souvenez, le côté clair-obscur est une chose qui va être toujours très... Alors là, évidemment, c'est pas un sujet rembrandtesque, hein. Mais... Et alors là, qu'est-ce que vous auriez à dire de ça ?
Ça ressemble au rocher.
Oui.
paysage.
Ouais.
Pas le même traitement.
C'est tôt dans sa carrière.
C'est tôt dans sa carrière.
Oui, mais ça fait moins flamand.
Ah ben ça ne fait pas du tout flamand. Enfin, pas du tout. Fait pas trop flamand.
C'est quand il est arrivé
en Italie. Ben oui, c'est ces peintures pittoresques, italianisantes. Mm-hmm. Comme, évidemment, la Cédor, c'est pas dedans. Mais c'est comme ça. Ça, ça vous rappelle quoi? Blanchisseur de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un Fragonard qui s'intéresse au pittoresque. Alors, une charrette embourbée avec un troupeau de moutons, ça intéresse autant que les blanchisseuses dans une soupente. C'est ce pittoresque italien qui, partout, se répand sous ses yeux. Il est entre le pittoresque italien et le rembrandtisme, que l'on retrouve là-dedans d'ailleurs. Mais évidemment, Rembrandt, il n'a pas trop représenté une vache, hein, sauf quand c'est un bœuf écorché, vous connaissez. Hein. Mais là, vous voyez comment il nous montre un beau taureau bien blanc. Hein. Donc vous voyez comment ce Fragonard, encore assez jeune, hein, est là, dans une espèce de berceau. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voyez dans ce verset, quelque chose là?
Ah, ben, c'est très peinture nordique, ça.
Ouais, voilà, absolument. Tiens, c'est amusant parce que c'est un. Oui. Donc, vous voyez que, à la fois, le pittoresque qui est ce goût qui vient d'Italie, hein, matiné de cette peinture nordique, qui est souvent pittoresque aussi. Voilà, ça crée des œuvres comme ça où vous pouvez un peu voir les deux d'une certaine manière, même si là on penche plutôt du côté nordique, effectivement. Ok ? Et ben voilà, comme le vieillard de tout à l'heure, hein, on retombe dans ce qu'on a vu, ok ? Très bien. Idem ? Je suis d'accord. Peut-être on pourrait même.
Je trouve que là, c'est plus précis dans les traits. Oui.
Oui.
C'est plus.
Oui, ça reste quand même très. Enfin, presto. Hein. Oui. Vous voyez comment tout ça est fait. Hein. On voit le gars avec sa palette, il y va en vitesse. Quoi, ça.
Mais pas vêtements.
Ah, ben, chaque tableau est différent. Oui, c'est vrai.
Il y a plus de contraste. Hein.
Oui.
C'est toujours
bah, souvent. Oh, vous en verrez d'autres qui peut-être. Regarde dans l'autre sens.
Ah, mais
voilà. Il
fait peu des.
Alors, ça vous rappelle quoi?
Le clown.
L'abbé. Quel abbé?
Saint-Nom.
L'abbé de Saint-Nom. Donc là, c'est un des membres de la famille d'Harcourt. Hein. Voilà. Donc ça aussi, c'est une. C'est quoi?
Une figure
de fantaisie. Comme
l'abbé.
Ah oui.
Comme ça. Comme ça.
Ah oui, donc ça.
Vous connaissez celui-là. Hein. Il y a longtemps, on a cru que c'était Diderot. Puis on sait depuis peu le temps, en fait, c'est pas Diderot. Ce qui montre bien, vous voyez, que la dimension. De représentation physique des personnages n'est pas le seul élément de ces figures de fantaisie. Ce qui intéresse, encore une fois, plus Fragonard qui grime ses personnages avec des costumes pas possibles, quand même. Hein. C'est plutôt, encore une fois, l'idée de la figure, ce qui s'en dégage, que la copie réelle de la réalité. Vous voyez, figure de fantaisie, il y en a. Et après, qu'est-ce qui se passe?
Des frivolités.
Eh oui, ça nous rappelle nos baigneuses de tout à l'heure. On n'est un peu plus coquins, d'ailleurs. Mais nous sommes avec notre Fragonard, on l'a vu, qui hésite en permanence entre la frivolité, le sérieux de la peinture d'histoire. Voilà. Et ça. Ça, oui. Ouais. Ça vous rappelle quoi, ça, d'ailleurs?
Colin Maillard.
Colin Maillard? Ah, moi, non. Je ne trouve pas.
La surprise.
Oui, voilà. Je trouve que ça rappelle plutôt Madame du Barry. Et on voit, alors là on est en 67, hein, Anne du Barry, c'est quelques années plus tard. Hein. Ce qui fait que, vous voyez, si ça, à la fin des années 60, pouvait être encore à la mode, 5-6 ans plus tard, c'est assez libre pour parler bon français. Hein. Les hasards heureux de l'escarpolette, hein, vous voyez qu'un monsieur.
Qui tire les cordes.
Voilà, qui tire la corde, au moment où, vous voyez, hop, la chaussure de madame est en train de whoop, partir dans le vide, hein. Et puisqu'elle lève la jambe, ben, ça lui permet, bien sûr. Il y a ça, oh, l'escarpolette. Donc, vous voyez qu'on est chez un fragonard qui exploite de manière, je veux dire, galante, un peu tout, sous les yeux d'un amour, vous voyez, qui est représenté là, bien sûr. Et puis pourtant. Et voilà. Vous reconnaissez bien le fragonard, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, qui hésite entre Renaud et Armide et des baigneuses. Ben, un peu.
Sacrée touche.
Et ça n'empêche pas Fragonard de revenir vers ses anciennes amours, c'est le temps de dire, à des heures comme celle-là. Hein. Voilà. Ou comme celle-là, un peu plus mesurée. Pardon. Bon, ça, ce tableau va vous rappeler des choses. C'est parti de. Voilà, la commande pour Madame du Barry.
C'est la suite de tout à l'heure.
Voilà. Et cette petite merveille-là. Ouais, je vous l'ai déjà montré. Ouais. Ah, j'en montre tout le temps, celle-là.
Ouais.
J'adore ce tableau-là.
C'est fantastique.
Pardon ? Oui, oui, oui. C'est ça que je trouve formidable. Je trouve que c'est un tableau qui est formidable parce qu'il est. C'est.
Il est wetté.
Oui, voilà, il est côté wetté. Mais il est déjà. C'est un tableau déjà. C'est à la fois. Très gai, mais un peu inquiétant. Ouais. C'est doux et fort. C'est plein de choses. Quoi. Je trouve que c'est un tableau qui est tellement bourré de tas de choses que... Ouais. Bon, je monte beaucoup. Je monte peut-être un peu trop. Mais je n'arrive pas à ne pas le montrer. Enfin, bref, je crois qu'on voit bien. Hein, on voit aussi quand avec des tableaux comme ça, c'est intéressant de faire un lien entre ça et ce qu'on a vu de Watteau.
Oui,
pas. Pensez à au départ de, pour dire, du Citer, par exemple. Hein.
Et est-ce qu'on s'est amusé à faire de la psychanalyse de
Watteau sûrement. Je ne suis pas sûr d'avoir lu tout ça, mais oui, sûrement. Ouais. Oui, il y a à faire. Hein. Il y a à faire. Et puis, évidemment, nous arrivons vers la fin de l'œuvre.
Ah oui, c'est bien biblique.
Oui.
C'est bizarre. Il y a des clairs obscurs.
Oui, mais c'est...
Non, mais c'est pas ça, mais en fait, c'est un peu de l'enfant.
Oui, alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est dans plein de choses. Hein. Oui. On est dans une scène d'histoire... qui est en mettant la peinture de Jean, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure pour le repos durant la philosophie, même si là, c'est du clair-obscur, rembrandtesque. Hein. Alors là, c'est vraiment rembrandtesque. Hein. Plus que l'autre encore. Hein. Mais on est plus tard aussi, beaucoup plus tard. Et voilà. Et donc, et là aussi, c'est Sainte-Anne et la Vierge, je n'avais pas remarqué ça, on ne serait pas obligé du coup de le savoir.
Hein. Oui, on en
sait. D'autant que, bon... Quand on est fragonard, il y a toujours des petits amours, évidemment, qui sont là. Hein.
C'est la suite de l'éducation de la Vierge.
Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que vous auriez à dire de ça?
Ah oui, il se met à la mode.
Ouais. On est vraiment à la fin de la carrière, il se met à la mode, il commence à aller vers des choses plus
néoclassiques.
Je crois qu'on voit la différence. Hein. Un tableau comme celui-là, il faut penser à quel tableau qu'on a vu tout à l'heure.
La fontaine.
La fontaine, absolument. Des tableaux vraiment qui se mettent à la mode, quoi, qui intègrent le néoclassicisme. On est là dans des œuvres qui vraiment prennent en compte ce retour du goût de l'antique, mais de l'antique plus rigoureux.
On a l'impression qu'il ne croyait pas.
Oui, il y a un peu de ça, je suis d'accord avec vous. Il y a un peu un côté, je le fais parce qu'il faut bien, mais voilà. Oui, c'est d'accord. Alors, avant de faire le oui-non, comme d'habitude, je vous montre toujours une peinture qui est peut-être quelque part un peu symptomatique de l'œuvre de l'artiste qui nous intéresse. Et là, je voulais vous montrer ça. C'est ça. Ça, c'est c'est un très grand tableau qui est effectivement à la Banque de France.
Mais il a pas été montré dans une exposition si. Il y a un certain nombre d'années.
Si. Alors, il a été montré à l'exposition Fredonard au Grand Palais il y a 45 ans, peut-être. Et puis récemment, au Louvre, effectivement, dans une exposition. Oui, tout à fait. Ouais. Vous auriez à dire quoi de ça?
C'est une réminiscence de Watteau.
Oui, c'est une sorte de Watteau remis au bout du jour. Je suis très d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs?
Il y a des drapeaux.
C'est
une fontaine.
Oui,
il y a des
jets d'eau. Alors, il y a un jet d'eau. Hein. On est dans le jardin de Saint-Cloud. Donc, à Saint-Cloud, il y a un très beau jet d'eau. Oui, là, il y a un petit théâtre, un peu... voilà. Et de l'autre côté, tiens, là, c'est un théâtre de marionnettes. Vous voyez le castelet. Et là, c'est un théâtre avec des comédiens devant un mur de scène, etc.
Et là, c'était un décor, évidemment. Enfin, un décor, non pas de théâtre, mais c'était décoratif comme idée.
Oui, c'est effectivement un tableau qui, avec quatre autres, devait appartenir à un ensemble, effectivement, qui formait un décor dans une salle, vraisemblablement. Oui, absolument. Ouais. Et c'est grand, hein, ça fait peut-être 2 mètres de long, hein, c'est un grand truc. Hein, un bon 1,50 m. C'est vraiment un grand tableau. Et alors, au niveau de l'atmosphère, je trouve votre remarque par rapport à Watteau très, très juste, mais un Watteau qui serait un peu moins mélancolique, je trouve. Même si ça l'est quand même, non? Ça l'est quand même. Oui. Parce que c'est une fête un peu contenue quand même.
Oui, mais c'est pas les grands singes, c'est pas les réjouissances.
On va pas, on va passer en train de danser.
Oui, non, c'est une fête contenue. C'est une sorte de Watteau qui avait vieilli.
Pourquoi vous le mettez comme un tableau qui sort?
Je trouve qu'il est à la fois différent de tout le reste et qui contient tout le reste. Qui contient tout le reste parce que vous avez cette espèce de pittoresque. Alors évidemment, là, on ne voit pas trop les détails. Hein, mais quand on voit, par exemple, de près, hein, ça, quand vous voyez que ça, en fait, c'est l'équivalent des blanchisseuses, mais pris dans un grand paysage. Idem pour la partie telle de marionnettes ou même celle-là. Là, évidemment, c'est noyé dans la végétation. Donc, ces scènes pittoresques très ponctuelles, elles sont comme noyées, encore une fois, dans le décor. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve que c'est un peu comme le Gilles de Watteau, celui, Gilles entre guillemets, parce qu'on a vu que c'était un Pierrot, hein, qui est un tableau très unique dans la carrière de Watteau. Ça, quelque part, c'est un tableau un peu unique dans la carrière de Fragonard. Il est un peu seul en son genre, et en même temps...
On retrouve les autres.
Voilà. Quand on regarde ça, par exemple, hein, mais de près, là, de loin, c'est difficile, mais on avait une scène pittoresque, mais, par exemple, la femme que vous avez là, la théâtreuse qui est là, en train de s'adresser au public, hein, elle est faite en quelques coups de pinceau, c'est d'un brio incroyable, et c'est tout la technique de Fragonard se fait apprécier dont on va parler tout à l'heure. En trois contemplations, il branle cette femme qui s'adresse aux gens. Donc je trouve que par le thème et la manière de peindre, c'est tout lui. Je trouve que c'est un tableau passionnant, effectivement, pour ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il prend, en charge tout le XVIIIe siècle, depuis le départ, depuis Watteau. C'est déjà, quelque part, un tableau romantique, parce qu'il y a, effectivement, une espèce de rapport de l'homme et de la nature, de spleen, de mélancolie qui est là. Donc je trouve que c'est un tableau qui est un peu unique en son genre, et qui est en même temps tout lui, quoi. Non ? Voilà. Un tableau très singulier. C'est pour ça que j'avais choisi pour le détacher des autres. Mais je voudrais qu'on passe au oui-non. Parce que maintenant, nous avons parlé de Fragonard pendant une heure, et vous possédez votre Fragonard sur le bout du doigt, il n'y a aucun problème. Tout ça va. Alors, on commence et on y va. Donc, comme Colin Maillard, qui a un tableau très bouchesque. Hein,
Tellement que c'est bien, vous aviez raison.
Non, ça démarre pas trop mal.
Peut-être que si le ciel
blanc comme ça,
ça fait du
19e,
un
pré-raphaélite. Ah oui,
pré-raphaélite
serait quand même plus. Ce genre de sujet un peu léger, scabreux, une dame se casse la figure sur la neige, ce qui lui permet de montrer ses dessous.
Le sujet, mais dans la manière de peindre.
Ah oui. Oui. Bon, mais ça ne nous dit pas si Fragonard ou pas.
Non.
Ah, il y a un si. Ah, il y a deux si. Il y a deux si, le reste des noms. Eh bien. C'est lui, alors. Mais c'est encore. Enfin, moi, je trouve que c'est surtout très bouchesque, ça. Hein. On est au départ.
Le format troublé.
Ah oui, toute en longueur. C'est sans doute un support. Comme là, d'ailleurs.
Non.
Vous ne voulez pas. Trop. Ça ne bouge pas. Donc, c'est non.
C'est
même pas un fragot du départ. C'est le fragonard, on l'appelle souvent fragot.
Le fragot du départ, c'est touché.
Oui, voilà. Non.
Non.
Ça ne vous va pas. Bon. J'aurais tout fait, hein.
Ah, oui.
Ça ressemble. Ambigu celui-là. C'est Psyché qui montre à ses sœurs les présents que lui a offert l'amour. Alors,
oui.
Il met des camps dans la pierre d'artiste, ça. C'est un moment où il est très, très Psyché. Donc un tableau de Fragonard à l'époque où il est influencé par Boucher, ça vous va? Ah non, il soit Boucher lui-même. Ah oui, mais alors c'est quoi alors? Plutôt Boucher ou plutôt Fragonard? On dit plutôt Fragonard et on a raison. Mais c'est un Fragonard très Boucher. Hein. Moi, je serais tombé dans le panneau.
Et Fragonard, je trouve que dans plusieurs tableaux, on a un premier plan avec un podium ou une, comme dans des lavandières, un sous-sol.
C'est vrai qu'il y a un sous-sol.
On a souvent ça. Oui. Donne de la profondeur.
Oui, c'est vrai, on trouve ça assez volontiers.
Il y en a au moins 3 ou 4.
Enfin, il a fait des centaines d'œuvres, mais il aime bien ça, je pense. Oui, il a raison. Ouais. Je ne sens pas emballé. Hein.
Non.
Non.
Je dirais oui.
Vous diriez oui ?
Non.
Vous diriez oui ? Eh ben, il a raison. C'est lui. Oui, oui. Ah, vous savez.
Non, oui, elle est
dans.
Ça, c'est
pas cher. Ça, c'est du bolesque, hein.
Oui, oui.
Cascade, ruine, le temple de la Sibylle là-haut. Hein. Si c'est pas Tivoli, ça.
Oui, c'est Tivoli, mais c'est peut-être pas Fabien.
Ah, ah, ça fait
penser un peu à Poussin.
À Poussin ?
Un peu. On n'avait pas vu, il y a quelques temps en arrière, un peintre aussi qui avait fait ce monument en hauteur.
Si, hein. Si, si.
Mais
si.
Je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
Ah. C'était dans vos séances là, parce que.
Il y a que Chardin où je ne suis pas venue. Alors c'est Watteau-Boucher.
Donc Watteau-Boucher. Ça aussi, je tombe la Sibylle, je m'en volontiers. Mais. Bah, je ne sais plus. Mais sûrement. Et alors là, donc, vous. Vous verriez ?
Non.
Non.
Ah non ?
Non.
Non. Donc c'est pas lui ?
Non.
C'est Tivoli, mais c'est pas lui.
Voilà.
C'est Tivoli, mais c'est pas lui.
Ah.
Mais c'est bien Tivoli.
Mais c'est bien Tivoli. Ça fera un temps de la Sibylle de plus.
On l'a vu sur. Ah, on nous l'avait mis pour si. Pour Watteau.
Trop sage. Non,
mais trop sage. Donc pas lui.
Oui.
Non. C'est ça.
Non. Donc plutôt non.
Plutôt non.
Plutôt non.
Si.
Ah, ce serait qui alors?
Watteau.
Watteau.
Non.
Fragonard. Fragonard quand même.
Oui.
Ah, il y a les Fragonards là. Hein. Enfin, je ne sens pas, je sens pas la salle. C'est un boucher typique. Hein. Un typique boucher pense-t-il au raisin, mais on a vu une autre version il y a deux séances.
Et puis la forme des boutons. Alors.
Ah oui, c'est typique boucher. Vous voyez là, on n'a pas du tout la touche de Fragonard.
Oui.
Pas du tout. Vous voyez ce côté lisse, précis. Alors, il y a tout un bazar, bien sûr. Hein, tout ça, plein de choses. Mais la façon dont c'est fait. Est beaucoup plus cernée, précise chez Boucher que chez Fragonard. Hein.
C'est Corot.
Ah. Voilà une scène pittoresque, italienne.
Mais non.
Non.
Non, c'est pas son ciel.
Non.
Alors ce serait qui ? Ah. Alors quelqu'un de quel endroit ? Espagnol ? Ah bon ? Donc c'est un espagnol qui serait allé en Italie.
Ah
bah, oui, la droite. Ok. Bon, vous aviez raison, c'est pas du tout lui, c'est Karim Villard. Hein. C'est donc un nordique, hein, un hollandais. Et de ces hollandais que Fragonard a beaucoup, beaucoup regardé. Hein. Ce genre de scène avec des bergers, qui... Alors, des animaux. Bien vu. C'est le pendant ce qu'on a vu au départ. Ce que je vous ai montré dans le tout à fait.
Le rocher, c'est l'autre.
Très bien.
Oui.
ça ressemble à
la baie de Saint-Nom.
La quoi?
La baie de Saint-Nom.
Ah, la baie de Saint-Nom. Donc ce serait une figure de fantaisie. Ça, on a vu qu'il pouvait tourner la tête d'un côté ou de l'autre. C'est une figure de fantaisie. Plus petit format d'ailleurs.
Il y a le chien
qui
fait
le
savon.
Un fragonard du début.
Un fragonard bouchesque. Ok.
Mais non.
C'est un boucher. Comme moi.
C'est toujours l'image de Paris
Alors, c'est pas lui?
Non.
C'est Polo. Donc pas lui.
Oui, ça ressemble un peu le dernier qu'on avait vu dans l'homme qui n'avait pas de cheveux. Oui, qui avait un chapeau, je crois, avec plus de contraste.
Oui. Donc, plutôt oui, plutôt non. Donc, non. Il y a raison, c'est Tiepolo.
Oui, mais Tiepolo, il est comme lui.
Ah, mais oui, d'ailleurs, on a peut-être vu des Tiepolo en Italie, enfin voilà, c'est...
Non. Avec un sujet ressemblant à celui de tout à l'heure.
Qu'on a vu tout à l'heure.
Mais c'est pas lui.
Non. Mais un sujet équivalent. Oui. C'est un peintre avec son modèle, et le modèle se débat parce qu'il n'a pas trop envie de se dénuder, en clair. Hein. Vous avez raison, c'est pas lui. Mais c'est le sujet. Là, c'est le modèle honnête. Même sujet, tiens.
Mais quand j'ai dit de la démarche, c'est plus précis.
Alors, bon, c'est mou tout ça. Alors, oui, non.
Non.
Bon, je sens autant de oui que de non.
C'est partagé.
Donc au moins, puisqu'on sera au centre.
Ah voilà. La petite escarpolette.
Oui, la petite escarpolette. C'est pas la grande de la Wallace Collection qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ah, parce que c'est connu que c'est de lui. Hein.
Oui, c'est connu de lui.
Il est connu de lui. Donc c'est lui.
C'est pas sa touche.
C'est pas sa touche.
C'est pas sa touche.
C'est
sa belle-sœur.
C'est pas lui, ça. C'est trop.
Sa belle-sœur ?
Oui, trop. C'est trop.
C'est quoi cette histoire de belle-sœur ?
Sa jeune Marguerite Gérard.
Marguerite Gérard.
Peut-être qu'il a peine avec elle. Ils vont peindre quelquefois à deux, non ?
Eh ben voilà. Il se trouve qu'à la fin de sa vie, Fragonard a beaucoup peint des tableaux avec sa belle-sœur qui s'appelle Marguerite Gérard, qui était donc la jeune sœur de son épouse, hein, voilà, dont ce tableau-là. Et donc Fragonard va changer de manière. En plus, vous voyez, ça correspond à la fin de sa vie et à cette époque, justement néoclassique, où à la fois il continue à faire de manière très archaïque, finalement. Mais finalement, ça c'est très archaïque. Rendez compte, on est vers 1790. C'est très archaïque, ça. Il représente quelque chose tel qu'on l'aurait fait 20 ans auparavant, et là, ça aurait été moderne. Vous voyez, il continue des sujets un peu vieillots, mais d'une manière assez nouvelle. Donc, c'est un peu comme s'il faisait du néoclassicisme avec des vieux sujets, vous voyez, comme s'il habillait ses statues antiques de soieries des années 1750. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très bizarre. Puis tout l'aime tout. Et en plus, il travaille avec Margaret Gérard, sa belle-sœur, mais qui justement va peut-être finalement faire, qui va adopter ce style-là. Margaret Gérard a fait beaucoup de scènes de genre, comme ça. Elle va avoir beaucoup de succès fin 18 et surtout début du 19e siècle, Marguerite Gérard. Elle va représenter beaucoup de scènes de genre avec des petits intérieurs, etc., dont on voit l'écho ici, effectivement.
Mais c'est rare de voir une peinture à quatre mains.
Ben oui. Enfin,
sauf dans les écoles, bien sûr.
Oui, oui. Ouais. Mais non, c'est pas fréquent, vous avez raison.
Si, quand il perdait, quand il y en avait qui étaient spécialisés dans la peinture des fleurs.
Oui, c'est juste. Alors, chacun en plus se donnant, par exemple, il y a des artistes qui ont fait des couronnes de fleurs et un autre qui faisait le centre. Absolument. Alors, je crois qu'il en reste un ou deux encore. Je crois que c'est le dernier.
Ça peut ou c'est
on fera d'autres. Un peu que c'est Fragonard, parce que c'est l'esquisse pour la surprise. C'est le tableau de la Fake Collection pour la Pompadour, vous vous rappelez du Barry. Vous reconnaissez d'ailleurs, hein, il y a la même femme. Alors le monsieur arrive là, dans l'autre il est plus haut, il y a la même statue. C'est alors, donc ça c'était le dernier. Hein. Bon, bah, écoutez, c'est pas trop la catastrophe, c'est bien.
C'est pas trop mal.
Je crois que vous êtes bien tiré. Alors, je voulais vous montrer une dernière œuvre. C'est qu'à la fin, je vous montre toujours une œuvre, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ça dépend, pour faire une espèce de synthèse. Et là, je vous montre deux œuvres qui sont la synthèse du personnage. L'œuvre que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, la fête à Saint-Cloud, est plutôt une œuvre un peu, comme le Gilles Levin, tout ça, une œuvre un peu singulière, particulière, spéciale. Là, ce que je vous montre, comme je l'ai fait dans une fois précédente, c'est plutôt des œuvres qui synthétisent le personnage. Voilà ici un premier tableau, je vous montre un deuxième. Pourquoi je vous montre ces deux tableaux ensemble, comme une synthèse du personnage?
C'est
le même commanditaire. En fait, ces deux tableaux ont été faits en pendant. Ça vous surprend? Et pourquoi? D'une certaine manière.
Mais ce n'est pas les deux périodes, enfin, je ne sais pas les termes que vous employez, qu'il aimait faire entre l'historique et puis le...
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une scène de genre ici, hein, plutôt galante d'ailleurs. Hein, voilà. Et là, on a une scène qui est effectivement une peinture d'histoire.
Alors l'amour religieux et l'amour profane.
En quelque sorte. C'est-à-dire ces deux types d'amour, l'amour effectivement élevé, etc., avec cette scène d'histoire, hein, et de l'autre côté, effectivement, une scène de genre qui est l'amour profane. Voilà. Et bien, moi, je trouve que ces deux tableaux qui étaient faits pour être ensemble, qui maintenant ont été réunis ensemble au Louvre, hein, et qui sont intéressants parce qu'ils synthétisent vraiment le travail de Fragonard, qui voulait être quelqu'un qui hésite toujours entre les deux. En plus, on a vu chez lui, notamment vers la fin, hein, même si ce tableau n'est pas vraiment vers la fin, mais toujours cette capacité à faire des tableaux très léchés, etc. C'est un peu curieux, ça, comme manière. Alors que là, on a ce côté plus rapide. Décidément, ces deux tableaux qui sont faits, qui sont commandés par la même personne, qui sont faits pour être mis en pendant, sont deux tableaux incroyables parce que justement ils permettent voilà, vraiment de synthétiser le travail du Fragonard. On a là deux genres différents, deux manières de. Voilà. Et en plus, vous voyez qu'il y a du genre dans la peinture d'histoire. En même temps, alors on n'a pas le temps de faire un travail sur ce tableau-là, mais c'est un tableau qui va bien au-delà hein, de la simple petite entrevue galante entre un homme et une femme. Hein. C'est un tableau plus compliqué que ça. Pardon. En fait, la femme est d'accord, mais un peu comme la Caligroé tout à l'heure. Oh, elle tombe de...
Elle se pare.
Certains y ont vu, oui. Mais en fait, c'est sans doute un peu plus consenti que cela. Voilà, en tout cas, ces deux œuvres-là vraiment synthétisent un peu tout Fragonard, aussi bien au niveau du faire qu'au niveau du sens, finalement. Et c'est pour ça que je voulais terminer par eux, parce que vraiment, on est là dans quelque chose qui nous permet de, ben, finalement, de clore la page. Voilà. Bravo à vous. Alors, la semaine prochaine, on termine le cycle avec David. C'est peut-être dans 15 jours. C'est peut-être dans 15 jours. Je sais pas. Ben, je vais attendre les yeux. Et après, je prends votre question. Alors, est-ce que c'est la semaine prochaine?
Oui.
Oui. Mais je dis ça. Oui. 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 Oui.